affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Notre émission de ce jour prendra la forme d'une enquête, ou plutôt d'une restitution d'enquête, sur un sujet pour le moins important, quoique lointain, puisqu'il va nous emmener du 12e au 4e siècle avant notre ère, dans ce Levant qui voyait notamment régner ces anciens Hébreux qui sont, comme on le sait, à l'origine de Dieu. Toutefois, pour évoquer ce sujet passionnant, où il y aura beaucoup de surprises sur cette invention de Dieu, selon le titre de l'ouvrage de notre invité. Notre invité est Thomas Römer. Thomas Römer, vous êtes spécialiste mondialement reconnu de l'Ancien Testament. Vous occupez la chaire Milieu biblique au Collège de France. Vous êtes également professeur à la faculté de théologie et de sciences des religions de l'Université de Lausanne. Thomas Römer, bonjour, merci bonjour. D'être parmi nous. Vous avez donc récemment publié un ouvrage qui, en juin dernier, vous a valu de vous voir décerner le prix 2014 d'histoire des religions de la Fondation Les Amis d'Antoine Bernheim. C'est un livre qui, c'est le moins qu'on puisse dire, renouvelle très largement l'appréhension que nous pouvons avoir de ce Dieu qui nous était à la fois lointain et familier, puisque, comme le déclare le titre même de votre ouvrage, ce Dieu aurait été non seulement inventé, mais créé à partir d'éléments disparates trouvés sur place par les Hébreux. Expliquez-nous ça. Qu'est-ce que c'est que cette invention de Dieu ?
Voilà, alors il faut bien s'entendre sur le titre déjà, invention de Dieu. Il ne faut pas imaginer que quelques bédouins se sont rassemblés autour d'un feu de camp ou quelques scribes autour de leur bureau à Jérusalem pour dire voilà, quel Dieu allons-nous inventer aujourd'hui ? Certainement pas. Il faut prendre à inventer dans le sens de découvrir aussi. On découvre un Dieu, on le transforme, on l'adapte à ses besoins. C'est pas un moment précis où quelqu'un va se dire, voilà, je vais inventer un dieu qui s'appellera, on reviendra peut-être sur la question du nom, qui s'appelle Yahvé ou Yahou. L'invention, c'est plutôt, en effet, l'idée qu'un petit dieu qui peut être à l'origine le dieu d'un petit groupe de nomades est repris, en fait, par un groupe qui s'appelle Israël et qui devient ensuite le dieu tutélaire, le dieu protecteur de ce groupe, faisant ensuite carrière pour devenir le dieu national. Et tout à la fin, de manière paradoxale, au moment où ce petit royaume d'Israël, de Juda, va s'effondrer, à ce moment-là, ce Dieu disparaît pas. Au contraire, il devient le Dieu unique. C'est quelque chose d'un peu étonnant. Et il faut essayer de comprendre pourquoi c'est ainsi.
La première surprise, c'est que dans notre imaginaire de chrétien occidental, on a l'habitude de se souvenir que le Dieu qui fait partie de notre culture est un dieu halogène, puisqu'il vient effectivement des cultures hébraïques. Mais ce qu'on en découvre dans votre ouvrage, c'est que pour les anciens Hébreux eux-mêmes, ce dieu est halogène.
Tout à fait, tout à fait. On peut commencer en fait par une observation toute simple, c'est le nom d'Israël que porte ce groupe qui, petit à petit, va devenir un groupe qu'on appellera les Juifs. Mais là aussi, il faut bien distinguer les choses. Restons d'abord au nom d'Israël. Israël, c'est un nom d'un groupe avant de devenir le nom d'un pays ou d'un État qui comporte un élément théophore, donc un nom divin, Israël. Et El, c'est pas du tout le nom du dieu d'Israël, parce que El, c'est le grand chef des panthéons cananéens dans le Levant qu'on connaît par Ougarit et pas d'autres textes. Donc El, c'est un peu le Zeus cananéen. Donc le fait qu'Israël s'appelle Israël, ça veut dire que le dieu qui devient ensuite le dieu tutélaire de ce peuple n'était pas depuis toujours le dieu vénéré par ce groupe. Donc c'est le fruit d'une rencontre qu'il faut essayer de retracer.
Alors, comment c'était le problème de cette rencontre ?
Alors, cette rencontre se produit sans doute par un petit groupe de nomades qu'on appelle les chassous. C'est une expression égyptienne qu'on peut en effet traduire par nomade ou semi-nomade, dont on a en effet des traces dans les inscriptions égyptiennes qui énumèrent ces chassous qui ont des relations un peu compliquées avec l'Égypte parce que parfois ils sont enrôlés dans des travaux un peu de type corvée, ils travaillent dans les mines à côté de la ville actuelle de Elam. Quadrilate. Et dans les listes, bah, on retrouve des chassous qui sont caractérisés comme étant les chassous de Yahweh, ou Yahweh, qui apparemment est la première attestation que nous avons du nom Yahvé, qui deviendra le dieu biblique.
Et pour être bien clair, ces chassous ne sont pas une des tribus d'Israël, ce ne sont pas des Hébreux.
Non, pas du tout, ce ne sont pas des Hébreux, c'est des gens qui, en fait, se trouvent quelque part entre l'Égypte et le sud du Levant, donc aujourd'hui, voilà, dans la région d'Elat, pour faire court, et qui, apparemment, à un moment donné, ont rencontré un groupe qui se nomme Israël, dont la première attestation se trouve de nouveau dans des textes égyptiens, dans une stèle d'un pharaon Merneptah qui, vers 1210, relate ses conquêtes militaires dans le Levant, mentionnant Israël qui l'aurait donc anéanti, ce qui évidemment fait partie de la rhétorique militaire, puisque ce Israël va justement commencer sa carrière à ce moment-là. Et donc, Yahvé devient sans doute le groupe... Yahvé devient le dieu de ce groupe du nom d'Israël, probablement suite à une rencontre entre des chassous mentionnant ou vantant en fait les mérites de ce Yahvé qui probablement les a à un moment donné sauvés des Égyptiens, puisqu'on a beaucoup de scènes où les Égyptiens poursuivent les chassous, donc ils sont souvent quand même dans des relations assez conflictuelles, et on peut imaginer, bien que ce soit un peu la spéculation, qu'un groupe chassous s'enfuir d'Égypte ramène dans ses bagages le dieu Yahvé et le présente ou raconte aux Israélites tout ce qu'il a fait par rapport à l'Égypte. Et il ne faut pas oublier qu'au deuxième millénaire avant notre ère, l'Égypte contrôle en fait l'ensemble du Levant. Donc d'avoir un dieu qui tout d'un coup se montre comme un dieu qui est plus fort que l'Égypte, c'est un dieu qui peut intéresser ce groupe Israël, et il est assez compréhensible que ce dieu peut être adopté par ce groupe. Parce que les dieux sont assez mobiles dans le Levant comme en Mésopotamie. On peut les choisir, on peut s'en défaire, on peut les combiner, donc il y a un grand marché du Levant.
On fait allégeance à celui qui potentiellement peut donner la victoire.
Voilà, tout à fait. Et puis, je pense, El, qui donne donc son nom à Israël, El, c'est un peu ce que les historiens de religion appellent un Deus Otiosus, un dieu qui a créé le monde, mais qui après s'est un peu retiré des affaires du monde. Et donc, d'avoir un dieu un peu plus guerrier, un peu plus combatif, c'est quand même plus intéressant. Et je pense que c'est un peu cela qui est à l'origine du fait que Yahvé devient le dieu d'Israël. D'ailleurs, dans les textes bibliques, on voit très bien que Yahvé n'a pas toujours été le dieu d'Israël, parce qu'on raconte que Moïse lui-même, quand il reçoit sa vocation par ce dieu pour faire sortir les Israélites d'Égypte, il doit d'abord demander le nom en disant « Mais qui es-tu là qui veut que je fasse des choses un peu compliquées ?» Et c'est à ce moment-là seulement que Yahvé se présente sous son nom de Yahvé. Donc la Bible elle-même, d'une certaine manière, garde les traces du fait que la relation entre Yahvé et Israël n'est pas une relation d'origine. C'est en effet une sorte de rencontre qui, évidemment, est difficile à retracer, mais qu'on peut quand même situer aux alentours de 1200 avant notre ère.
Vous avez parlé des traces qui restent dans la Bible. C'est ce qui est intéressant dans votre démarche et votre façon de mener l'enquête, c'est que vous mêlez différentes formes de sources. Vous avez cité des sources égyptiennes, archéologiques, mais, et c'est ce qui fait peut-être une forme de singularité, vous utilisez toutefois aussi comme document historique, non pas de première main, mais document historique, les textes de la Torah ou l'Ancien Testament.
Ouais, tout à fait. Parce que, en effet, c'est clair que les récits bibliques, surtout des origines dans le Pentateuque, la Torah, ce n'est pas des textes historiques, mais ils gardent quand même des traces de mémoire, comme l'exemple qu'on vient de citer. À cela s'ajoute un certain nombre de textes qui présentent Yahvé comme étant un dieu qui vient du sud. Donc pas d'Israël, on dit Yahvé se lève, il vient de Séir. Alors Séir, mais justement, on est de nouveau dans la région de ce fameux chassous, donc c'est la région qu'on appelle à l'époque biblique le pays d'Édom, ou Madian aussi, où Moïse doit s'enfuir pour échapper au pharaon. Et ces textes qui parlent d'un Yahvé qui vient du sud, donc de l'extérieur en fait du territoire de Juda-Israël, ces textes, à mon avis, peuvent guère être inventés, donc ils gardent quand même les traces qu'il y avait à l'origine, avait une montagne sacrée qu'on appelle le Sinaï, mais qui n'était certainement pas le Sinaï tel qu'on le connaît aujourd'hui, parce que le Sinaï actuel, c'est une identification des pèlerins chrétiens qui date du 4e siècle de l'ère chrétienne. Donc c'est quelque chose de très récent, disons relativement récent. Et donc le vrai Sinaï, entre guillemets, il faut plutôt le chercher dans le territoire d'Édom, en fait.
Chez les Chassous.
Chez les Chassous, voilà.
Alors, ce dieu des Chassous, ce fameux Yahweh ou Yahou ou Yahwa, quels sont ses traits caractéristiques à l'époque?
Il est d'abord, en effet, un dieu. C'est un peu comme le dieu Seth, peut-être, chez les Égyptiens, qu'on a d'ailleurs ensuite identifié à Baal. C'est un dieu guerrier. Un dieu qui est parfois aussi un peu en conflit avec d'autres divinités et qui, en fait, mène la guerre en faveur du groupe qui le vénère. Très vite, lorsqu'il devient le dieu d'Israël, il devient aussi un dieu de type Baal, puisque Baal, ce n'est pas un nom propre à l'origine, c'est simplement le titre qui veut dire seigneur ou maître qu'on donne à des dieux de l'orage. Dieux de l'orage qui, souvent, sont des dieux aussi assez guerriers, comme c'est le cas, par exemple, du fameux Baal qu'on connaît dans les textes d'Ougarit. Donc Yahweh est un dieu de guerre et un dieu de l'orage. Et donc, ça devient un dieu très, très populaire parce que la guerre est l'orage, c'est-à-dire la pluie, sont indispensables pour survivre dans le vent à la fin du deuxième millénaire et durant le premier millénaire, la première moitié du premier millénaire.
Et donc c'est un dieu qui a encore un nom propre.
Ah oui, bien sûr. Yahweh ou Yahou, gardons Yahweh, personne ne sait exactement quelle est la bonne prononciation, peut-être même qu'il y en avait plusieurs. Ce dieu est évidemment un dieu qu'on appelle par son nom parce que, puisqu'il n'est pas encore le dieu unique, il faut bien qu'on puisse le distinguer des autres dieux. Donc, on a Milcom chez les Ammonites, Kemosh chez les Moabites, et puis on a des déesses comme Asherah, Anat, etc. Donc, il faut que les dieux puissent être identifiés. Et Yahweh, s'appelait Yahweh au moins jusqu'au 5e, 4e siècle avant notre ère.
Ce dieu a un visage aussi.
Il a un visage. Il est sans doute représenté, bien que ça puisse paraître un peu bizarre, parce qu'aujourd'hui, quand on parle du dieu des religions monothéistes, c'est le dieu transcendant. Le premier commandement dit qu'il ne faut pas le représenter. Mais déjà, le fait que pourquoi on dit il ne faut pas, quand on interdit quelque chose, ça veut dire que souvent, c'est quelque chose qui
on
se pratique.
On ne légifère pas sur des choses qui
voilà,
ne se font pas.
Je pense, si ça va de soi, pourquoi l'interdire? Et on peut imaginer deux manières. Dans ce qu'on appelle le royaume du Nord, puisque à l'époque de la monarchie, il faut peut-être rappeler, il y a deux entités qui vénèrent Yahvé. Israël, qui à l'époque ne comporte pas du tout la partie, disons, une partie de ce qu'on appelle aujourd'hui Israël. Voilà. Donc Israël, c'est plus au Nord, parfois on appelle le royaume du Nord. La capitale sera Samarie, jusqu'à 722, avant notre ère. Et puis Juda, beaucoup plus petit, avec la capitale Jérusalem. Donc, en Israël, sans doute, Yahvé est représenté d'une manière bovine, comme un taureau. Il y a des histoires bibliques qui font allusion à cela, notamment la fameuse histoire du veau d'or, qui en effet critique après coup la vénération de Yahvé en forme bovine. Il y a aussi un texte dans le livre attribué au prophète Osée, où on parle justement du veau de Samarie qui sera détruit par les Assyriens. Donc dans le Nord, c'est certainement sous cette forme-là que Yahvé était vénéré. À Jérusalem, peut-être plus à la manière d'un dieu siégeant sur un trône de chérubins, c'est des sortes de sphinx, donc des êtres hybrides avec une tête humaine et puis un corps de lion ou d'autres. Et il y avait trônant là-dessus. Il y a beaucoup de textes bibliques qui, finalement, si on les lit de manière tout simple.
En oubliant les a priori.
Voilà, on va par exemple, il y a ce psaume qui dit qu'il faut ouvrir les portes de Jérusalem pour que puisse entrer ce Dieu magnifique qui est ce Dieu, dit le psaume, c'est Yahvé, le grand Dieu guerrier. Vous voyez qu'on garde encore ces attributs-là. Et ça, à mon avis, ça se comprend le mieux dans le contexte d'une procession qu'on fait. Et à la fin de la procession, évidemment, on ramène le Dieu dans sa maison, dans son temple. Donc il faut ouvrir les portes. Il y a d'autres psaumes qui parlent justement du fait qu'il faut voir le visage, la face de Yahvé, et ça fait sans doute aussi allusion au fait que certains fidèles passaient la nuit au temple et le matin, le prêtre ouvre le Saint des Saints et puis voilà, on voyait la statue de Yahvé. Donc je pense que c'est beaucoup plus simple d'imaginer cela que de postuler une sorte d'aniconisme dès les origines, parce que ces textes-là, bah, il faut tout de suite les prendre sur un plan symbolique. Et je crois, avant qu'on fasse des lectures allégoriques ou symboliques, il faut essayer d'abord de comprendre
au sens littéral.
Voilà, tout simplement. Et puis, je crois, avec cela et d'autres arguments, on peut en effet assez clairement, disons assez clairement, avec beaucoup de probabilité quand même, émettre l'hypothèse qu'il y avait aussi une statue dans le temple, dans le premier temple de Jérusalem.
Donc, au commencement, il y avait, était l'idolâtrie.
Bah oui, si vous appelez ça idolâtrie, c'est vrai que...
Ça ressemble un petit peu quand
voilà,
même.
Voilà, c'est ça. Disons, parce que bon, il y a souvent un peu une acceptation un peu plus populaire d'idolâtrie. On ne pense pas évidemment à la vénération de Yahvé, mais je pense tout à fait il a été vénéré sous forme d'image.
Bah, ça ressemble un peu à une procession viking. Hein,
alors, il y a des processions, bah, il ne faut pas aller jusqu'aux vikings, bah, on peut aussi, mais chez les Égyptiens, on a ça, chez les Assyriens aussi. D'ailleurs, les Assyriens, quand ils racontent qu'ils ont détruit Samarie en 720, ils disent qu'ils ont déporté les dieux en qui les Israélites se fiaient. Alors, donc ça montre déjà qu'il y a plusieurs dieux, on peut aussi y revenir, et puis que bah, comment peut-on transporter quelque chose qui est invisible ? Donc, c'est mieux qu'on imagine qu'ils ont en effet transporté des statues, soit pour les détruire, soit ce qui probablement plus plausible pour les mettre dans les temples assyriens où ces dieux rendaient allégeance en fait aux dieux assyriens, image en fait pour ce que les peuples soumis devaient faire également de leur côté.
Il y a une transposition dans une sorte de panthéon religieux, de rapport de vassalité.
Tout à fait. Alors, c'est clair que de toute manière, les dieux sont toujours un peu conçus, imaginés à l'image des systèmes politiques des humains. Donc, Yahvé, au moment où il devient le dieu le plus important, est présenté un peu comme un dieu qui trône au milieu des autres dieux. Il y a beaucoup de psaumes, mais aussi l'ouverture du livre de Job, où on voit Yahvé qui est entouré de sa cour céleste. Et probablement, il avait aussi à ses côtés une déesse, une parèdre, probablement du nom d'Achéra, et qui parfois apparemment est aussi appelée la reine du ciel.
Sur cette représentation sous forme bovine, comment peut-on l'expliquer dans la...
Alors ça, je pense, c'est en effet l'influence, et c'est pas par hasard que ça se passe dans le royaume du Nord, en Israël, donc en Samarie. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît bien du Nord, donc de la Phénicie ou d'Ougarit, où Baal, justement, lieu de l'orage, est aussi représenté sous forme bovine. Il est d'ailleurs appelé dans certains textes, en effet, le taureau Baal. Et je pense, c'est en effet le taureau avec les cornes symbolisant un peu la puissance et donc, d'ailleurs, les coiffes des rois, souvent, sont des coiffes cornues où on symbolise des cornes, comme d'ailleurs aussi des dieux qu'on représente de manière anthropomorphe. Donc, c'est un effet symbole de la puissance et peut-être aussi de la force sexuelle, puisque Baal a aussi une compétence sexuelle tout à fait remarquable.
C'est un petit peu Mitra avant la lettre.
D'une certaine manière, voilà, tout à fait. Donc, à l'époque de la monarchie, et surtout dans le royaume du Nord, Yahvé ressemble beaucoup en fait à ces Baals-là, d'où dans la Bible ces récits d'une lutte acharnée d'un prophète comme Élie contre la vénération de Baal. Pourquoi cette lutte acharnée ? Parce que Yahvé a à peu près les mêmes fonctions et puis il n'y a pas besoin d'avoir deux dieux qui s'occupent exactement de la même chose, donc il faut choisir les Baals ou le Baal de Phénicie et puis le Baal Yahvé d'une certaine manière. Et puis c'est Yahvé qui finalement va l'emporter.
Mais comme vous disiez, il y a une forme de marché religieux,
oui,
dans lequel chacun précisément fait son choix au gré des circonstances. Et si je comprends bien le déroulé de votre raisonnement, ce sont justement les circonstances qui vont mener à transformer radicalement les attributs de ce Dieu.
Tout à fait. Alors, je pense on peut le décrire peut-être en trois étapes. Première étape, c'est 722 avant notre ère, lorsque le royaume d'Israël est en effet cesse d'exister, puisqu'il est intégré dans le système des provinces assyriennes. Samarie est détruit, n'existe plus comme un État. Et donc, du coup, déjà, on se pose la question, alors ce Yahvé, s'est-il fait battre par les Assyriens ? A-t-il abandonné son peuple ? Et dans le sud, à Jérusalem, sans doute, on a lu cette histoire comme preuve que le vrai Israël, d'une certaine manière, le vrai peuple de Yahvé, ce n'est pas le grand frère dans le nord, c'est nous, à Jérusalem. C'est un peu ce qu'on peut observer plus tard dans l'histoire, lorsque les empereurs germaniques se donnent le titre des empereurs du Saint-Empire romain, alors que cet Saint-Empire n'existe plus depuis très longtemps. Et sans doute, à ce moment-là, Israël devient plus un nom, qu'est-ce qu'il faut dire, théologique, revendiqué par le petit royaume de Juda.
Une sorte de destinée manifeste.
Une sorte de OPA, ou je ne sais pas ce qu'il faut dire, une sorte de récupération, en fait, à la fois du titre d'Israël et aussi de Yahvé comme étant, en fait, le dieu de Jérusalem. Et c'est très intéressant parce qu'à cette époque-là, on a justement une inscription de la proximité de Jérusalem qui dit « Yahvé est le dieu de Jérusalem ». Donc c'est comme si on veut vraiment affirmer que le vrai lieu où Yahvé doit être vénéré, c'est Jérusalem. Et ça, c'est quelque chose, en effet, qui va se préciser 100 ans après, 622, via ce qu'on appelle la réforme du roi Josias. Donc, c'est une sorte de centralisation de la vénération de Yahvé au seul temple Jérusalem. Donc, avant, Yahvé pouvait être vénéré un peu partout, évidemment dans le nord, à Samarie, Bethel. On a des inscriptions du 8e siècle où on parle même d'un Yahvé de Théman, c'est toujours le sud de Théman, mais en dehors justement du territoire d'Israël ou du Juda. Donc il y avait des multiplicités, ou je sais pas, des toutes sortes de Yahvé, un Yahvé de Bethel, de Théman, de Samarie, etc. Et ce que fait la réforme de Josias, c'est de dire non, Yahvé est un. C'est pour cela qu'on a ce fameux texte dans le Deutéronome, écoute Israël, Yahvé est notre Dieu, Yahvé est un, Echad en hébreu, souvent traduit par Yahvé seul, mais ce n'est pas tout à fait la pointe de ce texte. Le texte veut dire que Yahvé ne peut pas être, reparti entre différents sanctuaires. Le seul sanctuaire où il peut être vénéré, c'est le temple de Jérusalem. Et ça, c'est le début, en fait, de l'importance symbolique que Jérusalem va garder jusqu'à aujourd'hui, en fait, dans le judaïsme, comme étant le seul lieu où on peut offrir un culte sacrificiel avec des sacrifices sanglants à Yahvé. L'idée étant, sans doute, à cette époque-là, de renforcer, en fait, le pouvoir de Jérusalem, parce que les archéologues nous disent que Jérusalem devient une ville importante au premier millénaire seulement aux alentours de la fin du 8e et surtout durant le 7e siècle. Et donc Yahvé devient le Dieu un, mais pas encore le Dieu unique. Ça, c'est quelque chose qui viendra 50 ans, disons, pas tout de suite.
On commence par supprimer les franchises.
Alors, on reprend le contrôle de la marque. On supprime les autres dieux, les autres cultes de Yahvé. Et probablement aussi, on le fait divorcer d'une certaine manière. Asherah va être aussi, ou la statue d'Asherah va être détruite, nous dit-on dans le texte biblique, pour en effet arriver à ce qu'on peut appeler une monolâtrie. Pas encore le monothéisme, l'idée étant, et on trouve ça dans la première version du livre du Deutéronome, qui est sans doute écrit comme une sorte de manifeste de cette réforme de Josias, Yahvé, en fait, est le seul dieu qui doit être vénéré par Israël dans le sens théologique, déjà, le peuple de Yahvé, mais en même temps, on trouve dans le Deutéronome constamment la mise en garde contre la vénération d'autres d'autres dieux. Ne suivez pas, ne courez pas après d'autres dieux. C'est presque une sorte de refrain qu'on trouve dans ce livre. Et ce qui veut dire, les autres dieux existent, mais Israël, en fait, n'a qu'un seul suzerain, c'est Yahvé. Et là, derrière, on peut tout à fait voir l'influence rhétorique et idéologique des traités de vassalité que les Assyriens ont fait fabriquer de manière assez forte et qui étaient connus aussi à Jérusalem. Seulement, en fait, ce qu'on met maintenant à la place du grand roi assyrien à qui il faut allégeance absolue, maintenant, c'est à Yahvé qu'il faut allégeance absolue. Donc c'est aussi d'une certaine manière une sorte de manifeste anti-assyrien tout en se servant en fait de la rhétorique et aussi même des figures du style assyrien. Donc on peut dire sans les Assyriens on n'aura jamais eu la Bible, bien que c'était considéré comme étant parmi les pires ennemis d'Israël.
Ça, c'était la première étape.
Ça, c'est la première. La deuxième, ça dépend. 722, 622. 722, c'est peut-être la première, c'est-à-dire Yahvé migre vers Jérusalem de manière définitive. 622, Yahvé devient le dieu 1. Maintenant, il nous faut encore expliquer pourquoi du dieu 1...
Ce n'est pas encore du monothéisme.
Voilà, pourquoi du dieu 1, il devient le dieu unique. Mais là, il faut aller 50 ans plus tard, en 587.
Ça s'accélère quand même.
Ça s'accélère d'une certaine manière. Voilà, 50 ans. Après cette magnifique réforme de Josias, qui veut d'une certaine manière renforcer le pouvoir économique et politique aussi de Jérusalem, parce qu'il ne faut pas oublier que les temples, c'est aussi des recettes d'impôts. Donc on paye les impôts au temple. Et donc si les recettes sont tous payées à Jérusalem, le contrôle, évidemment, des rentrées est plus facile que s'il faut aller voir ce qui se passe dans les campagnes. Par contre, en 587, c'est les Babyloniens qui succèdent en fait aux Assyriens comme empire qui contrôle la Mésopotamie et le Levant. Les Babyloniens vont détruire le temple de Jérusalem et en fait amener une partie de la population, sans toute l'intelligentsia, en exil à Babylone. Et donc, le roi, évidemment, aussi la famille royale, va s'y retrouver également. Et donc, du coup, c'est en fait l'effondrement des piliers traditionnels sur lesquels repose une identité dans le Proche-Orient ancien, à savoir le roi, le dieu et le pays. Le roi était en exil, le dieu avec son temple, on ne sait pas très bien où il se trouve, et puis il n'y a plus de cohérence géographique parce qu'une partie des gens se trouve désormais à Babylone, d'autres se sont enfuis en Égypte où très très vite on va avoir une communauté judéenne très importante et certains sont restés dans le pays. Donc, il y avait dans tout cela. Dans le livre de Ésaïe, qui était révisé, retravaillé à cette époque dite l'exil babylonien, on trouve souvent cette affirmation « Non, mon bras n'est pas trop court », dit Yahvé. Alors s'il dit ça, c'est parce qu'il y a des gens qui ont dit « Ah, le bras de Yahvé, il était bien court », c'est-à-dire qu'il n'a rien fait pour nous sauver des Babyloniens. Donc du coup, voilà, soit Yahvé en effet un dieu trop faible, où Yahvé a abandonné son peuple et puis il faut aller voir d'autres dieux. Et c'était sans doute une tentation qui a en effet séduit pas mal de gens.
C'est ce qui avait conduit à le choisir initialement.
Voilà, d'une certaine manière, si on reste dans un raisonnement un peu utilitariste, il aura en effet fallu s'intéresser aux dieux babyloniens. Bien que l'Empire babylonien n'a pas duré très longtemps, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais par contre, alors ce qui se passe à ce moment-là, un peu de crise, où les autres peuples comme les Moabites, les Édomites, les Ammonites vont se fondre d'abord dans l'Empire babylonien et perse, et puis on n'entend plus parler tellement d'eux en tant que peuple, ça devient un peu des noms pour des régions géographiques. Les dieux Kemosh, Milcom, etc. disparaissent, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Alors, dans ce petit royaume de Juda, ou alors en exil à Babylone, va se faire une sorte de révolution théologique, puisque, on va dire, malgré toutes les évidences, le vrai Dieu, c'est Yahvé. Alors, comment va-t-on pouvoir dire ça? D'abord, par plusieurs réflexions. On va écrire, on va reprendre les annales royaux et on va les réécrire pour montrer en fait que tout est arrivé jusqu'à la destruction de Jérusalem à cause de l'incapacité du peuple et surtout des rois de respecter les volontés divines telles qu'ils sont consignées dans le livre du Deutéronome qui avait vu le jour à l'époque de Josias et qu'il demande justement la vénération exclusive de Yahvé. Donc on va dire, oui, mais un tel roi est allé voir telle ou telle autre divinité, il n'a pas respecté les lois de Yahvé, etc. Donc l'exil est en effet expliqué comme une sorte de punition, de sanction de Yahvé à l'égard de son propre peuple, parce que les rois et les responsables du peuple n'ont pas respecté en fait le contrat. Hein, donc le Deutéronome.
Le coupable n'est plus le Dieu, mais le peuple.
Le peuple est coupable et surtout les rois.
Hein,
et à la fin, justement, du deuxième livre des rois, qui termine cette longue histoire, qu'on n'appelle pas l'histoire deutéronomiste parce qu'elle s'inspire beaucoup du livre du Deutéronome, à la fin de cette histoire, on va dire très clairement, c'est Yahvé qui fait venir les Babyloniens pour sanctionner son peuple, pour détruire son propre temple, ce qui est aussi assez incroyable. Un dieu qui décide de détruire son propre temple, il fallait le faire. Donc c'est quand même une réflexion assez poussée, assez poussée. Mais du coup, on va se dire aussi, mais alors si ce Yahvé peut faire venir les Babyloniens, donc il est plus fort que les Babyloniens. Les Babyloniens, c'est en quelque sorte les outils, voilà, les outils qu'il s'est choisi. Et donc du coup, alors qu'en est-il des dieux babyloniens? Et deuxième étape, on va se dire, mais les dieux babyloniens, est-ce que c'est vraiment des vrais dieux? Et là, on va avoir ce texte du livre d'Ésaïe qui va dire, bah non, ces dieux-là, en fait, c'est que des statues que les hommes se fabriquent, parce que sans doute, on a observé en exil à Babylone comment on construit, parce que dans ces textes-là, c'est assez intéressant, on décrit vraiment comment on choisit soit du bois, du bronze, etc., selon les moyens qu'on a, comment on taille d'abord la statue, comment on l'habille, comment on la peint, etc. Et après, on dit, oui, alors ça mange pas, ça voit pas, ça peut rien faire, ça bouge pas. Et donc tout cela, en fait, c'est pas une manière de représenter un dieu, le vrai dieu. Et c'est pour cela aussi, le Yahvé après l'exil devient un Yahvé transcendant, invincible, qu'on décide de ne plus représenter justement pour le distinguer de tous ces statues-là. Et donc, petit à petit, on va arriver à cette conviction, en fait, que malgré les évidences, donc c'est vraiment une sorte d'énoncé paradoxal, on est en exil, la royauté a disparu, le temple se trouve peut-être en ruine ou est déjà reconstruit, mais on va dire en fait, le vrai Dieu, le seul Dieu, c'est Yahvé. On va même aller jusqu'à dire, dans toujours ce même livre d'Ésaïe, que ce Yahvé-là, c'est aussi celui qui a choisi après le roi perse Cyrus, qui est appelé dans ce texte d'Ésaïe le Messie en fait de Yahvé, pour le charger de reconstruire le temple, etc. Donc Yahvé devient du coup le Dieu qui dirige non plus seulement le dessein d'Israël, mais tous les peuples et la terre entière.
Comment imaginer, je suis désolé de faire part de ma stupéfaction, mais qu'il n'y ait pas eu aussi des germes philosophiques ou théologiques précédant tout cela.
Alors,
c'est quand même une innovation tellement radicale, est-ce qu'elle ne peut être que conjoncturelle?
Alors, il y a eu des philosophes qui ont parlé de la fameuse de l'époque où le temps axial, où en effet, aux alentours, entre le 8e et le 6e, 5e siècle, l'idée monothéiste serait un peu dans l'air du temps. On ne peut pas totalement exclure ça. On voit en effet dans les textes assyriens, babyloniens, que tantôt on a des tentatives de faire d'un dieu le seul dieu ou le dieu chef. On a un texte où on dit « mais tous les autres dieux ne sont que des manifestations de dieu Sin ou de dieu Marduk ». Donc il y a quand même un peu déjà cette pensée un peu d'unification du monde divin. Chez les Grecs, il va y avoir les philosophes qui commencent à dire « mais est-ce que vraiment vous imaginez que le dieu fornique se comporte comme des humains, c'est quand même bizarre. Je sais plus lequel disait, oui, si les chevaux avaient des dieux, bah les dieux auraient la tête des chevaux. Donc cette critique-là, elle est un peu dans l'air du temps. Mais c'est quand même dans ces textes qui deviennent ensuite les textes bibliques où on va pousser le plus radicalement cette idée. Est-ce qu'elle sera arrivée aussi sans cet événement de la destruction du temple de Jérusalem? Difficile à dire, donc ça on ne peut pas spéculer, mais on peut en effet observer que c'est quelque chose qui trouve peut-être quand même certains terrains assez fertiles. Il ne faut pas oublier non plus, bon, les Perses, c'est des mazdéistes, ils vénèrent Ahura Mazda, c'est pas encore le zoroastrisme, mais ils vénèrent un dieu qui est le grand dieu de l'univers, donc il y a les autres dieux, mais qui sont un peu au service de ce Ahura Mazda, un peu comme après les anges dans la tradition juive et chrétienne. Donc il y a sans doute des liens qu'on peut faire. On a aussi beaucoup spéculé sur l'influence après de la religion perse sur le judaïsme naissant, notamment en ce qui concerne le dualisme, c'est-à-dire d'avoir en fait un élément négatif qui est hostile en fait au Dieu créateur, qui deviendra le Satan ou le diable dans la tradition judéo-chrétienne. C'est possible aussi qu'il y ait des apports. De toute façon, il faut toujours se rappeler que les religions n'évoluent pas dans des vases clos, hein. Donc il y a toujours en fait des influences mutuelles. Aucune religion n'est pure, c'est-à-dire on se greffe toujours de ce qui existe, on reprend des images des autres, mais est-ce qu'il faut dire aussi que cette idée monothéiste, elle ne va pas s'imposer d'emblée. On sait encore qu'au 4e siècle, fin du 5e, début du 4e siècle, en fait, en Égypte, il y a une communauté, alors faut-il déjà dire juive ou judéenne, qui vénère Yahweh, mais ensemble avec une déesse du nom de Anat et une troisième divinité, Hashim Bethel. Alors c'est un peu comme ces triades égyptiens, le dieu père, la mère et puis peut-être le jeune dieu ou le fils de ce couple.
Donc il y a une résistance interne au monde hébraïque.
Oui, le monothéisme ne s'impose pas aussi facilement, donc c'est peut-être après de nouveau une question de moyens, d'économie. On voit par exemple quand on lit le texte biblique que le Pentateuch et apporté par des gens de Babylone, par Esdras, selon le récit biblique, donc ce qui fait penser que la diaspora babylonienne jouera un rôle très important dans cette invention du monothéisme.
Et parmi les autres peuples, comment cette idée, quelque peu outrecuidante quand même, tout d'un coup considérée qu'ils n'ont qu'un seul dieu, que c'est le dieu unique qui préside aux destinées de l'univers entier et que les autres ne sont que des idoles.
Tout à fait.
Alors, ça provoque la fureur, autres, la stupéfaction, le haussement d'épaule, quoi.
Je pense d'abord, à l'époque des Perses, je crois que ça n'intéresse pas beaucoup les Perses. Les Perses sont assez libérales en ce qui concerne les affaires religieuses des peuples qui sont intégrés dans l'Empire. Aussi longtemps qu'ils payent les impôts et qu'ils ne se révoltent pas, il y a une certaine liberté. C'est d'ailleurs aussi pour cela que dans les textes bibliques, les Perses sont vus de manière très très positive. Alors contrairement aux Assyriens, aux Babyloniens, contre lesquels on trouve des oracles, souvent très très violent, alors que le Perse c'est plutôt les gens bien. Hein. Et d'ailleurs, il y a des textes où on a l'impression, on veut un peu identifier Yahvé à Ahura Mazda, parce que lorsque Esdra, dans le texte qu'on a déjà évoqué, arrive de Babylone, il a dans sa main la loi du Dieu des cieux. Alors qui est le Dieu des cieux? On peut évidemment dire c'est Yahvé, mais en même temps, Dieu des cieux, c'est aussi un titre que les Perses reprennent des Babyloniens pour le donner à Ahura Mazda. Donc le Dieu des cieux, ça peut être aussi bien Yahvé que Ahura Mazda. Il y a aussi des textes dans la Bible même, on a l'impression qu'on veut suggérer que les dieux des nations, en fait, finalement, ce que des manifestations de Yahvé, même si les nations ne le savent pas. Alors, si on regarde maintenant du côté des nations, je pense au début, lorsque le judaïsme devient un peu, disons, je pense qu'il faut attendre le moment où le Pentateuch est traduit en grec, parce que qui va lire de l'hébreu à part, et même les judéens, à partir de l'époque perse, ils parlent de l'araméen, donc ça reste en fait des écrits assez confidentiels, donc on ne sait pas trop ce que ce petit peuple pense. Par contre, au moment où on traduit le Pentateuch en grec, donc aux alentours du 3e siècle avant notre ère, à ce moment-là, les autres peuples en prennent connaissance. Et d'abord, première réaction, c'est de dire, mais en fait, les Juifs, et d'ailleurs on va aussi le dire après pour les chrétiens, ce sont des athéoi, c'est des athées. Parce qu'ils n'ont pas vraiment de Dieu, parce qu'on ne peut pas le voir, il n'y a pas de statue. Dans le temple Jérusalem, il n'y a rien, apparemment, dans le temple reconstruit. Ils ne veulent pas offrir des sacrifices à une panoplie de divinités comme il faut le faire pour que les affaires marchent. Donc d'abord, c'est un peu, à la fois, soit on se moque d'eux, mais au niveau philosophique, après, ça va intriguer aussi, puis ça va peut-être rencontrer aussi un intérêt des intellectuels grecs et romain. Donc je pense c'est au moment où la Bible existe en grec que cette rencontre va se faire et finalement va avoir le succès qu'on connaît. Mais c'est vrai, encore les Romains accusent les Juifs et les chrétiens de pas vraiment être des religieux puisqu'ils se contentent d'un Dieu invisible et transcendant.
Comment résout-on aussi cette tension entre un Dieu qui est déjà universel mais qui reste un dieu national, clanique.
Oui, ça c'est un autre problème, parce qu'évidemment, au moment où le dieu devient un dieu unique, la question se pose, si c'est un dieu qui est le dieu et le seul dieu qui s'occupe de tous les peuples qui se trouvent sur cette terre, pourquoi est-ce qu'il aura une relation particulière avec Israël ? À l'époque, justement, où chaque peuple a son Dieu, c'est une question qui ne se pose même pas, parce que, évidemment, chaque peuple a son Dieu tutélaire. Mais au moment où ce concept-là est rejeté, il faut expliquer pourquoi on maintient quand même cette idée qu'on a une relation particulière. Et c'est là qu'on va trouver dans des textes qui sont écrits justement à l'époque perse, disons au 5e, 4e siècle, cette idée que Yahvé lui-même, pour des raisons qui ne sont pas très claires, s'est choisi en fait Israël comme une sorte de propriété personnelle. On utilise un terme qui vient de l'acadien ou de l'assyrien et qui veut dire en effet le trésor privé du roi avec lequel il fait ce qu'il veut. Et ce mot « segula », on va l'utiliser pour désigner Israël, donc pour dire en fait, oui, Yahvé c'est le dieu de toutes les nations, mais il a quand même choisi ce petit peuple Israël pour avoir une relation particulière. C'est ce peuple-là qui est le seul à avoir eu la révélation des commandements divins et ce peuple-là est le seul à pouvoir rendre vraiment le culte tout à fait adéquat à ce Dieu-là. Et à partir de cela, vous pouvez avoir deux attitudes qu'on trouve tous les deux dans la Bible. Alors une attitude un peu de ségrégation. On dit qu'il ne faut pas se mélanger avec les autres peuples parce qu'ils ne connaissent pas vraiment la manière dont il faut vénérer le vrai Dieu. Ou alors une ouverture en disant, mais peu importe les dieux qu'invoquent les autres, nous on sait très bien que là derrière il y a un seul Dieu, mais nous avons le privilège en fait de savoir d'abord comment il s'appelle et ensuite de savoir comment il faut le vénérer d'une manière adéquate.
Ils auraient une sorte de connaissance ésotérique.
Sorte de. Alors, on peut appeler ça. Voilà, on peut appeler ça une sorte de syncrétisme. Et c'est très intéressant parce qu'on trouve dans le premier chapitre de la Bible, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On ne dit pas Yahvé, on dit Dieu, Elohim. Et Elohim, en hébreu, c'est un mot qui peut à la fois signifier le singulier, un Dieu ou Dieu majuscule, ou le pluriel, des dieux. Et donc Elohim, c'est en effet déjà tout un concept qui regroupe en fait dans le singulier la pluralité. Et il y a une tendance qui est la tendance d'un milieu qu'on appelle souvent le milieu sacerdotal, peut-être lié plus aux prêtres, qui a cette idée que Yahvé en fait s'est révélé comme Elohim aux autres peuples, comme El Shaddai, ce qu'on appelle le Dieu Tout-Puissant, mais le Dieu des champs peut-être, à Abraham et sa descendance, donc c'est déjà un peu plus restreint, et finalement seulement à Moïse, sous son vrai nom de Yahvé. Et c'est peut-être aussi à ce moment-là qu'on va se poser la question, mais si c'est le Dieu unique, pourquoi faut-il l'appeler Yahvé ? Et on voit que déjà au moment où on traduit le Pentateuque en grec, On n'a plus dans le texte où le texte hébreu dit Yahvé. En fait, il ne dit pas Yahvé parce que le texte n'est pas vocalisé. On n'a que les consonnes. Donc, on a en fait les quatre consonnes de ce qu'on appelle le tétragramme du nom de Yahvé. Dans la traduction grecque, on a déjà Kurios. Kurios qui veut dire Seigneur et qui reprend en fait l'hébreu Adonai qui est devenu en fait le substitut pour Yahvé. Donc aujourd'hui, lorsqu'on lit le texte de la Bible hébraïque, surtout le Pentateuque, dans les synagogues, on ne va pas dire Yahvé, on va dire Adonai, donc Seigneur, ou parfois aussi Hachem, simplement, qui veut dire le nom.
Dans cette course à, j'allais dire à l'abîme, à l'universalité,
oui.
Est-ce que finalement le christianisme n'est pas l'aboutissement ? Est-ce que ce n'est pas déjà inscrit ?
Ça, je ne sais pas, parce que l'islam va aussi revendiquer être l'aboutissement.
Est-ce que ça ne vient pas résoudre cette tension entre un Dieu national et un Dieu universel ?
Alors ça, évidemment, on pourra dire ça. C'est-à-dire, le christianisme, contrairement au judaïsme, mais d'ailleurs l'islam aussi, a cette, cette idéologie universaliste, avec ce qu'elle a de bien, mais ce qu'elle a aussi de mauvais, à savoir qu'à ce moment-là, tous les peuples doivent se soumettre et se convertir à ce Dieu unique. Ce que le judaïsme n'a jamais eu cette idéologie missionnaire. Mais c'est clair, d'une certaine manière, le christianisme est une sorte de réaction peut-être à cette tension entre le particularisme et l'universalisme, qui d'ailleurs va substituer à la médiation de Moïse une autre médiation qui est celle de Jésus. Mais de nouveau, en fait, on va avoir ce problème justement des médiations. Donc le christianisme va insister sur le fait que c'est seulement par Jésus qu'on peut avoir le salut. Et donc ceux qui ne reconnaissent pas Jésus comme le Messie, soit il faut les forcer ou alors il faut les condamner comme étant des païens, voire des hérétiques. Donc, et l'islam, d'une certaine manière aussi, de nouveau réagit peut-être à un certain christianisme qui repeuple un peu le ciel. Parce que quand on regarde les textes du Nouveau Testament, on trouve que le ciel est assez rempli. Il y a les anges, après on va même avoir des divisions, on va avoir les archanges, on va avoir le Satan, le diable, qui jouera un rôle très très important. Et d'une certaine manière, cette difficulté même de penser le monothéisme va mener après les théologiens chrétiens à inventer la Trinité, Dieu Père, Esprit, Fils, ce que certains milieux juifs et après l'islam naissant va aussi un peu condamner en disant est-ce qu'on est encore sur le niveau du Dieu unique du monothéisme. Donc je pense l'islam et le christianisme, à la fois en cette perspective universaliste, mais on voit quand même que le christianisme n'a pas résolu la chose, puisque 6 siècles après, voilà, l'islam est né, et on voit tout le temps, même dans le christianisme, il va y avoir des schismes, des redéfinitions, le protestantisme, l'église orthodoxe, etc. Et comme dans l'islam pareil, avec sunnites, chiites. Donc il y a toujours un peu des idées différentes sur le Dieu unique. Donc je crois apparemment, même s'il est unique, il a du mal à fédérer tout le monde sous en ce qui concerne la bonne manière de s'adresser à lui et de le vénérer. Ce qui nous pose aujourd'hui d'ailleurs toutes sortes de problèmes qu'on n'a peut-être pas besoin d'évoquer ici, mais on voit très bien aussi cette... et alors personnellement, si je peux me permettre, je trouve là un côté sympathique dans le judaïsme, c'est-à-dire ce refus en fait de convertir les autres. D'ailleurs, c'est d'ailleurs toujours regardé comme quelque chose de suspect si quelqu'un veut se convertir au judaïsme, alors que l'islam et le christianisme ont cette approche très universaliste ou plus que les gens se convertissent, mieux c'est. Donc là, il y a en effet une différence. Et l'autre différence, c'est que le judaïsme, jusqu'à la création de l'État d'Israël, n'a jamais été en fait une religion d'État. contrairement au christianisme, à l'islam, qui souvent, en fait, se sont appuyés sur le pouvoir politique, d'abord l'Empire romain et puis l'Empire germanique, etc., pour, en fait, faire triompher leur religion.
Donc la question, c'est aussi... Si je comprends bien, le judaïsme naît précisément parce que l'État s'est effondré.
Alors justement, et puis, d'une certaine manière, je pense, on peut même dire que le judaïsme a inventé la séparation, pas de l'Église et de l'État, mais du politique et de l'État. Parce que normalement, dans le Proche-Orient ancien, c'est les rois qui reçoivent par leur divinité tutélaire les lois, comme on le voit sur la stèle de Hammurabi qu'on peut admirer dans le Louvre. Le dieu Shamash donne au roi la loi et c'est le roi qui est censé faire appliquer la loi. Si vous regardez la Bible, en fait, tous les lois sont données avant l'entrée dans le pays à Moïse. Les rois d'Israël et de Juda ne reçoivent aucune loi. Ils sont jugés en fonction des lois qui existent. Disons, si on prend la chronologie biblique, déjà à l'époque où il n'y a pas encore de roi, où il n'y a pas de pays, où il n'y a pas de temple, où il n'y a pas d'État ou de nation. Et donc ça veut dire aussi, en effet, on peut vivre sa religion sans avoir une légitimation politique, sans avoir un roi qui a la même religion. Donc on peut vivre sous les Perses, sous les Grecs, sous les Romains et dans tous les autres empires qui se sont succédés ensuite. Et ça, je pense, ça, c'est très, très important pour comprendre même la naissance du judaïsme. Donc, cette séparation, en effet, de la religion, d'un pouvoir politique.
C'est à la fois extrêmement archaïque comme origine, et finalement, on arrive à quelque chose d'assez moderne, voire presque post-moderne.
Alors, je ne sais pas si c'est post-moderne. Moi, je me fie un peu du post-modernisme. Ouais. Moi, je me considère plutôt comme un moderne. Mais je pense, en effet, que le judaïsme est à l'idée tout à fait moderne d'une religion qui n'a pas besoin, en fait, d'une légitimation étatique. Et le poète Heinrich Heine avait dit, en effet, que ce que fait le judaïsme, il change, en fait, l'idée de patrie en faisant de la Torah, du Pentateuque, la patrie portative d'Israël. Donc, en fait, c'est le rouleau de la Torah qu'on peut amener partout, qu'on se trouve en Babylone, en Égypte ou encore ailleurs. Et c'est dans la lecture de la Torah qu'on va trouver son identité et non pas par rapport à un pays, par rapport à un certain système politique, etc.
Peut-être un petit peu en train de changer, non ?
Alors évidemment, c'est vrai que la création d'Israël a changé la donne, mais il faut se rappeler quand même que statistiquement, le judaïsme dans sa grande majorité est resté une religion de diaspora. Bien sûr que au niveau
des mentalités, c'est quand même un pôle étatique vers lequel.
Alors bon, on évidemment,
se
ça c'est.
Même, non ? Est-ce que ça modifie pas cette perception ? C'est une question.
C'est un grand débat. C'est un grand débat. Disons, je suis pas spécialiste cela, mais les peu de choses que je sais, à partir de mes voyages, mes contacts que j'ai en Israël, c'est que même à l'intérieur du judaïsme, c'est pas du tout accepté par tout le monde. Il y a même eu des rabbins, il y en a toujours, qui disent c'est même un blasphème, un blasphème d'imaginer que la création de l'État d'Israël serait un peu l'aboutissement des promesses qui se trouvent dans la Bible.
Autant dire, c'est une conclusion en forme de pirouette et d'ouverture, mais c'est que en se penchant sur les origines méconnues et un petit peu curieuses de ce dieu, finalement, on en vient à imaginer la suite de ses carrières. Vous me disiez en marge de la préparation de l'émission que vous aviez imaginé initialement un autre titre qui était...
Les origines et la carrière du dieu Yahvé, ce que l'éditeur trouvait un peu complexe et compliqué, peut-être il avait raison.
La carrière n'est pas terminée.
La carrière n'est pas terminée parce que voilà, elle se poursuit dans le christianisme et dans l'islam. Il y a aussi le Baha'i qui se revendique comme étant des monothéistes, donc apparemment... Non, l'histoire continue, elle continue aussi longtemps que ces religions continuent et se modifient. Hein, donc les religions ne sont pas achevées, chaque religion est amenée à se modifier. Certains sociologues diront peut-être même à disparaître, mais ça c'est encore un autre débat. Donc est-ce que l'ultime carrière de Yahvé, c'est de se retirer totalement des affaires du monde ? Mais ça c'est une autre histoire qu'il faut plutôt, une question qu'il faut plutôt poser aux sociologues ou aux philosophes.
voire aux théologiens.
Aux théologiens.
En tout cas, merci beaucoup Thomas Römer. Ce qui était passionnant dans cette enquête et ce retour, c'est qu'il s'agissait à la fois d'une sorte de retour précisément jusqu'aux sources et aux origines, mais non pas pour y découvrir une sorte de pureté originelle, mais au contraire découvrir que tout cela est un processus dynamique, évolutif
et
de mutation permanente.
Voilà, il n'y a pas de religion pure, chaque religion est toujours héritière de quelque chose qui la précède.
Tout est toujours en devenir.
Oui, d'une certaine manière, pantaré, comme disent les Grecs.
Donc pour approfondir cette enquête passionnante, nous ne pouvons que recommander à nos auditeurs de se plonger dans l'ouvrage de Thomas Römer, L'invention de Dieu, paru aux éditions Seuil. Bien entendu, vous pourrez retrouver sur notre site internet l'ensemble des références de cet ouvrage. Merci Thomas Römer.
Merci à vous.
Et merci aux éditeurs de leur fidélité.